explorer de nouveaux mondes étranges,
traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace.
Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle.
En une vingtaine d'années, avec ses romans policiers, il nous a fait voyager dans pas mal de pays. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili, la Colombie. À n'en pas douter, Caryl Ferret aime les destinations lointaines. Il campe l'intrigue de ses polars dans des pays qu'il a réellement parcourus. Les lieux qu'il traverse et les gens qu'il rencontre inspirent et irriguent ses récits. Au fil de ses ouvrages, commençait à se dessiner une nette préférence pour les pays de l'hémisphère sud. Avec son dernier roman, L'Aide, paru aux Arènes, notre écrivain baroudeur effectue un spectaculaire basculement en nous projetant aux confins de la Sibérie, dans la ville la plus au nord et la plus froide du monde, Norilsk. Cette ville minière est aussi l'une des plus polluées de la planète. Alors comme pour tous ses précédents polars, Caryl Ferret s'est rendu sur place avant d'écrire. Et cette fois, il a aussi pris le temps de raconter son voyage dans un ouvrage intitulé Norilsk aux éditions Paulsen. Comment s'est déroulé son séjour dans cette ville infernale, isolée et fermée que l'on ne peut rejoindre qu'avec des autorisations spéciales. Nous allons le savoir cet après-midi. Caryl Ferret vient nous raconter ses voyages et comment il s'en inspire pour écrire. Et en fin d'émission, nous irons faire un tour en Polynésie française avec le vidéaste Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology sur YouTube. Il a suivi sur des atolls déserts du Pacifique une expédition scientifique visant à étudier la capacité des oiseaux à percevoir les signes avant-coureurs des catastrophes naturelles. Voilà pour le programme de cette émission préparée par Sophie Vaux et réalisée par Marion Lelay avec à la technique Philippe Duclos. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Un vent noir hurlait par la portière de la carlingue. Hector Parisé inclina son crâne chauve vers le fleuve. On distinguait à peine l'eau boueuse du Rio de la Plata qui se déversait depuis l'embouchure. Le pilote avait mis le cap vers le large, en direction du sud-est. Un vol de nuit comme il en avait fait des dizaines dans sa vie, bien des années plus tôt. L'homme au bomber kaki était moins tranquille qu'à l'époque. Les nuages se dissipaient à mesure qu'il s'éloignait des côtes argentines et le vent redoublait de violence, secouant le petit bimoteur. Avec le vacarme de la portière ouverte, il fallait presque crier pour se faire entendre. On allait bientôt sortir des eaux territoriales.
Ambiance, petit détour par l'Argentine avant d'arriver en Sibérie. Bonjour Caryl Ferret.
Bonjour.
Ainsi commence votre roman Mapuche, roman noir que vous avez publié en 2012. Le ton est donné, hein, l'ambiance de thriller dans un pays lointain. Vous aimez, Caryl Ferret, voyager et vos voyages inspirent vos romans. C'est plus stimulant pour vous d'imaginer une intrigue dans un pays et dans un contexte historique que vous avez d'abord découvert.
Bah, disons que j'ai commencé à écrire quand j'étais ado, hein, donc j'avais pas de plan B, et bon, vu mes études qui étaient quand même assez laborieuses, j'ai fait le tour du monde, ce qui était mes études à 21 ans. Ouais. Et en fait, c'est là où c'était le déclic, je me suis dit que j'ai adoré ce tour du monde et...
C'est-à-dire que vous êtes allé jusqu'à le bout de la Terre pour ce tour du monde?
Ouais, en fait, c'était à l'époque, c'était bien foutu, en fait, j'avais pris un billet open pendant un an, en fait, et j'avais pré-acheté, en fait, une dizaine de destinations. Et en fait, on avait un an pour aller dans tous ces pays et on pouvait partir le lendemain si on s'emmerdait quelque part, en fait, quoi. Mmh. Et bon, c'est surtout la Nouvelle-Zélande, hein, qui m'a bloqué là-bas, en fait. Je suis resté de longs mois là-bas. Et je me suis dit, bah, quitte à écrire un roman autant que ça se passe à l'étranger, parce que il y a une démarche de journaliste aussi un petit peu, et comme ça je pouvais tout mêler, à la fois la curiosité et puis l'envie de raconter des histoires.
Et pour Mapuche, donc c'est un voyage en Argentine qui a été le déclencheur, qui vous a permis d'inventer cette histoire. Alors pour raconter dans les grandes lignes, enfin planter le décor de l'intrigue, on est donc en Argentine, dans des milieux comme toujours dans vos romans, déshérités, pauvres, un peu déglingués. On suit une femme mapuche, hein, c'est une ethnie indienne, elle appartient à cette ethnie, elle est sculptrice, mais pour pouvoir survivre, elle se prostitue, et puis elle rencontre un détective qui lui aussi a été cabossé par la vie, dont on apprend que sa sœur a été volée, parce qu'à un moment en Argentine, sous la dictature militaire, les enfants ont été volés. Toute cette histoire, tout ce contexte, c'est en allant là-bas, c'est-à-dire ces Indiens opprimés, mapuche, cette histoire douloureuse avec les militaires et les vols d'enfants, c'est en allant sur place que vous avez découvert ça?
Bah donc je connaissais souvent, avant de voyager, je me documente très bien en fait, hein, donc je connais assez, enfin très très bien l'histoire des pays. Mais c'est pas parce qu'il y a une histoire qui est bouleversante que tu vas te bouleverser en y allant, en fait, quoi. Mais en Argentine, bon, c'était très simple. Hein. Je savais que tous les jeudis, les grands-mères à la place de Mai défilaient pour réclamer la restitution de leurs disparus, ouais, en sachant très bien qu'ils viendraient jamais, mais qu'il y aurait une justice qui serait donnée ou pas à cause
donc,
de ça.
Ces grands-mères de la place de Mai, ce sont ces femmes qui se sont battues justement pour essayer de retrouver ces enfants qui avaient été volés pendant
leur mari, leurs enfants, etc. Ouais. Pendant 35 ans, elles ont mené un combat absolument admirable. Et quand j'y suis allé la première fois en 2008, elles défilaient encore pour réclamer justice. Et le fait de les voir défiler devant la place Arimayo, bon bah déjà tu pleures, puis t'as les poils qui se hérissent. Ouais. C'est bouleversant. Donc tout de suite je me suis dit, alors là, bon, je vais faire mon livre autour des disparus, parce que elles, et puis bon, après j'ai eu la chance de les rencontrer, et bon, c'est des moments forts de la vie, en fait, quoi. Et après, bah, t'es obligé d'écrire des trucs, enfin là faut que tu fasses le maximum, quoi. Tu veux pas écrire ça en dilettante.
Ouais, c'est ça. Le sujet est suffisamment important pour que vous vous y atteliez avec tout le sérieux.
C'est rendre justice aux victimes, en fait, quoi. Ouais. Et comme ça pouvait être vous et moi, c'est les victimes de la dictature argentine. Bon, il y a une proximité qui est absolument évidente.
Alors ce processus, hein, d'écriture et de découverte d'un pays, on le retrouve vraiment à travers votre œuvre depuis 20 ans, hein, en Nouvelle-Zélande avec Aka, qui était un roman, Australie, vous êtes allé en Australie pour écrire Hutu, l'Afrique du Sud, Zulu, qui a été ensuite porté à l'écran, hein, avec un film du même titre, le Chili, Condor, la Colombie, Paz, c'était l'autre titre de ce roman. Votre dernier roman, L'Aide, alors là, changement de décor total, cette fois-ci on quitte l'hémisphère sud, l'intrigue se passe dans le Grand Nord, en Sibérie, dans une ville assez terrible, Norilsk. À l'origine de ce roman, il y a une proposition de deux éditrices qui vous donnent rendez-vous dans un café parisien. Qu'est-ce qu'elles vous proposent exactement, ces deux éditrices, des éditions Paulsen?
C'est exactement comme je raconte dans le récit de Norilsk. En fait, elle m'a dit, bon, Carrie, toi, tu vas toujours dans l'hémisphère sud, etc. Est-ce que ça te dirait d'aller dans la ville la plus pourrie du monde? Elles m'ont présenté comme ça, quoi. Ouais. Je dis, je serais curieux de savoir laquelle. Et elle me dit Norilsk, que j'ai jamais entendu parler. Et elle me dit, écoute, voilà, c'est la plus froide, c'est la plus polluée, c'est l'ancien goulag, faut les tampons du FSB pour y aller.
Les tampons du FSB, c'est autorisation de ce qui est devenu, ce qui était le KGB,
c'est ça,
quoi.
Hein. C'est ça, ouais. Et donc une ville totalement inaccessible, qui était semi-fermée, parce qu'ancien goulag, donc en fait jusqu'aux années 90, personne ne pouvait y aller. Même les Russes, ils n'ont pas le droit d'y aller. Et surtout, les pauvres gens de Norilsk, ils n'ont pas le droit d'en sortir, sauf s'ils ont la famille, enfin il faut des autorisations spéciales, y compris pour eux. Donc en fait, c'est un peu comme sur une lune de glace, en fait, assez inaccessible. Mm-hmm. En plus, c'est sur une péninsule, donc les gens de Norilsk appellent la Russie, ils l'appellent le continent, comme si c'était réellement sur une île.
Ils sont vraiment isolés. D'ailleurs, entre Moscou, vous le précisez dans votre livre, entre Moscou et Norilsk, il y a plus de distance qu'entre Moscou et Paris.
Beaucoup plus, ouais.
Ouais, donc c'est vraiment aux confins de la Sibérie, cette ville où il fait un froid terrible pendant l'hiver et où l'hiver dure 9 mois.
Hein, c'est hallucinant. Puis en plus, il fait deux jours de nuit, deux mois
où il fait jour et tout le reste...
Et deux mois où il fait nuit. D'où l'espérance de vie de 55 ans.
Ouais.
Pour les hommes, hein, 60 ans pour les femmes.
Alors que disent les habitants de Norilsk de leur ville? En voici un aperçu.
Nous sommes plus forts que la nature. Des guerriers. Allez faire un tour sur l'avenue Lénine en hiver. Il faut s'agripper au mur avec ses ongles, ses doigts. Les femmes s'accrochent avec leurs talons. La ville n'est pas faite pour les faibles.
Le bâtiment où je travaille est au pied d'une montagne. J'entends le vent hurler, ça me fait très peur. On n'ose plus sortir dehors. Vivre ici est dangereux.
Si l'homme surmonte cela, il atteint une marche supérieure. Il grandit, il prend confiance en lui. Les villes comme la nôtre, d'abord, elles éprouvent l'homme et ensuite, elles forgent sa personnalité.
Extrait du film documentaire Norilsk, l'étreinte de glace, sorti en 2019. Ce documentaire n'était pas encore sorti hein, lorsque l'on vous a proposé, Karyl Ferret, de vous rendre à Norilsk. Mais des témoignages de ce genre, vous en aviez entendu ?
Avant de partir, non.
Ah oui.
Vraiment, je suis parti à l'arrache parce que, comme j'étais en train d'écrire le livre en Colombie, je revenais juste de Colombie pour écrire ce récit de voyage que j'avais peu préparé, puisque de toute façon... Je m'attendais au pire, mais ouais. Bon, avec bonne humeur. Hein, parce que...
Mais c'est-à-dire, quand on vous a proposé ce voyage, en vous disant c'est la ville la plus polluée, ou l'une des plus polluées, la sixième la plus polluée du monde, la plus froide, la plus au nord, on ne peut pas y entrer, on vous a montré quelques photos, vraiment c'est des cheminées qui fument, c'est de la pollution, vous vous êtes dit, oui, j'y vais.
Bah oui, mais c'est une chance extraordinaire en fait, personne ne peut y aller. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas, on en a réussi par trouver un bar évidemment, et ils n'avaient jamais rencontré d'étrangers, je ne parle même pas de français, hein, d'étrangers. Ouais. Donc on était les premiers étrangers au monde que les jeunes mineurs rencontraient, donc forcément...
Pour vous c'était une chance, et quand vous dites personne ne peut y aller, vous, comment vous avez pu y aller, avoir ces fameuses autorisations du FSB, ancien KGB?
Les éditions Paulsen, en fait, je dis, oui, effectivement, mais du coup, comment je peux aider? Ils m'ont dit, on a un scientifique qui travaille avec nous, en fait, qui, lui, travaille avec les Russes, et qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui remonte jusqu'au FSB, et il n'y a pas de souci, en fait. Ouais. Et de fait, nos autorisations étaient... Enfin, heureusement pour nous, d'ailleurs.
Ouais. Alors, vous dites nous, parce que la seule condition que vous avez posée aux éditions Paulsen, c'est de partir avec celui que vous surnommez la bête. Qui est la bête?
C'est un peu l'avatar. J'ai un autre héros récurrent qui s'appelle Matt Cash, en fait. Là, c'est des romans que j'écris plutôt en France. Bon, c'est un de mes vieux amis qui est complètement taré, en fait, un peu.
Hein. Enfin, bon. À vous lire, parce que dans votre récit de voyage Norilsk, on se dit un peu ça. Mais il a l'air extraordinaire, mais c'est vrai qu'il a l'air assez hors norme, votre ami la bête.
C'est un sketch ambulant. En fait, donc du coup, je l'amène un peu partout, en fait, et c'est un peu comme Tarzan à New York, en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu le regardes et puis tu l'observes, tu dis mais il est complètement taré. Et du coup, ça fait des choses à raconter, forcément.
Mais il est très dur à cerner, hein, même avec ce que vous en racontez, parce que déjà physiquement, alors il a l'air effectivement assez costaud. Il a un bandeau sur l'œil parce qu'il est borgne. Vous dites, cela dit, qu'il a du succès auprès des femmes, donc il est plutôt beau gosse, ce la bête. Et en même temps il a l'air hyper gaffeur, c'est une sorte de... J'essayais de me le représenter physiquement, j'étais quelque part entre Depardieu et Pierre Richard qui auraient fusionné.
Ça peut être ça. Hein.
Ça peut ressembler.
Ouais, ça peut être Gaston Lagaffe et Stallone. C'est les deux à la fois. Mais ce qui est assez marrant, c'est que normalement, c'est parce qu'il fait du Krav Maga, donc c'est comment tuer les gens à main nue. Donc après, c'est lui mon garde du corps. Mais en fait, très vite, au bout de quelques jours, c'est moi son papa. Parce qu'en fait, il fait toutes les gaffes possibles, il perd son passeport. Il a perdu trois fois son passport à Norilsk.
Il ne perd pas, il égare.
Il égare, oui.
C'est ce qu'il vous dit à chaque fois que vous lui reprochez d'avoir perdu.
Mais il est d'une famille d'une haute noblesse.
Ouais. Hein, mais vous étiez sûr que c'était la bonne personne pour vous accompagner dans cet endroit?
Absolument sûr.
Pourquoi? Vraiment.
Mais parce qu'il a peur de rien, et puis en fait, on a grandi avec le punk, il s'en fout. D'ailleurs, enfin, quand je l'ai appelé, parce que j'avais demandé aux éditrices de Norilsk, de Paulsen, une seule condition, la bête, je viendrai avec un copain, machin. Là. Et en fait, elle m'a dit bon, d'accord. Et puis, sauf que je l'ai même pas demandé. Et faut quand même que je le prévienne. Et donc, j'ai fini par l'appeler et je l'appelle et il me dit qu'on s'appelle jamais, on a autre chose à foutre. Il me dit donc quand j'appelle, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, dépêche-toi parce que j'ai pas de batterie. Je suis sur un bateau, j'ai pas de batterie. Je dis, écoute, est-ce que tu veux aller dans la ville la plus pourrie du monde, en Sibérie? Oui! Terminé.
Ouais. Vous dites en voyage, il est partant pour tout, mais il ne s'occupera de rien.
Ah non, bon, il sait même pas où on est. Il sait toujours pas prononcer Norilsk.
Ouais. Mais alors, c'est intéressant parce qu'on sent que pour vous, le voyage ne vaut d'être vécu que si vous êtes accompagné d'amis, c'est rare, les écrivains voyageurs souvent prônent le voyage solitaire pour aller à la rencontre de l'autre. Vous avez besoin de voyager en bande ou au moins à deux, quoi.
Bah oui, c'est un peu un minimum d'interaction, quoi. Enfin, tout seul. Ça m'est arrivé une fois en Nouvelle-Zélande d'avoir une bourse, de me retrouver sur une île paradisiaque à côté des dauphins pour écrire, et je me suis jamais autant ennuyé de ma vie.
Ouais.
Donc j'ai vu ce que je savais déjà, mais que je me suffis pas du tout à moi-même. Alors qu'à deux, t'as toujours des souvenirs pour toute la vie, en fait. Ouais. Il suffit que tu recroises ce copain, cette copine, et puis t'as toujours un petit mot qui va te rappeler. Et puis surtout pour le récit de voyage, comme j'avais un peu peur de ce que je trouverais, en l'occurrence des banlieues vides, battues par les vents. Et sans rencontrer personne, je dis au moins, je sais que j'aurai au moins un sujet de sketch qui est dans la bête. Tu sais, les voyages, moi je trouve que c'est pas tant où on va qui compte qu'avec qui on y va.
Ouais, c'est ça. Donc là, vous étiez sûr d'avoir au moins une partie de votre récit écrit.
C'était sûr que j'aurais la moitié de la narration déjà.
Ouais. Alors le marché, justement, avec la maison d'édition Paulsen, c'était on vous envoie à Norilsk avec la bête si vous voulez et vous publierez le récit de voyage chez nous, dans notre maison d'édition. Ce que vous avez fait, hein, le récit s'intitule Norilsk. Vous allez nous dire comment s'est passé ce voyage. L'écrivain Caryl Ferret nous emmène dans ses aventures sibériennes, le temps d'un bivouac à Norilsk cet après-midi sur France Inter.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma.
C'était The Liminiana, c'est Laurent Garnier qui chantait Soul dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
En hiver, il fait toujours nuit. Ça a ses inconvénients et ses avantages. La nuit crée une ambiance intime. Il fait toujours chaud à l'intérieur. Tout le monde a sommeil et s'en plaint. C'est fatigant, la nuit polaire. Moi, je me sens tout à fait à l'aise. C'est joli. Les lampes éclairent l'avenue Lénine. La tempête souffle, ça a son charme. En hiver, tu deviens plus lent. Tout se passe au ralenti. Tout a l'air plus calme. En hiver, on hiberne. Quand la lumière revient après la nuit polaire, on se regarde comme si c'était la première fois. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Au printemps, la ville se réveille.
Une habitante de la ville de Norilsk, en Sibérie, la ville la plus au nord du monde. Notre invité, le romancier Karyl Ferret, a séjourné dans cette ville. Alors, vous n'avez pas choisi, Karyl, le cœur de l'hiver hein, pour aller dans cette ville. Vous avez quand même attendu justement le moment où la ville se réveille, le printemps.
Oui, d'ailleurs, en discutant avec les gens là-bas, ils me disaient que c'était souvent, étrangement, c'était plutôt l'été qui était le plus dur à supporter parce qu'ils n'arrivaient plus à dormir.
Ah ouais.
Ouais.
Bon. Parce que l'été, il fait quelle température?
Il fait jour tout le temps, surtout, en fait. Et en fait, normalement, il fait autour de 20. Mais là, j'ai un pote là qui m'envie, il a fait 40.
Ah oui.
C'est absurde.
Maintenant, il fait 40. Alors, il fait moins 60 en hiver et il fait 40.
Ça fait 100 degrés de différence. Ça a l'air fou.
Oui, ça a l'air en fou. On peut comprendre. Alors, c'est une ville très éloignée. On l'a dit. On ne peut s'y rendre qu'en avion, en fait. Il n'y a pas de train. Il y a un bateau, je crois, par un fleuve, mais encore qu'à certaines périodes de l'année. Vous êtes donc arrivé en avion. Quel souvenir vous gardez de cette arrivée dans cette ville dont vous aviez entendu les pires choses?
C'était assez dantesque, quand même. On s'imaginait un peu, un peu la tempête. Bon, c'était un peu la tempête. Hein. Bon, c'était évidemment plein de neige, etc. Mais surtout, en fait, on voyait pas de piste, on voyait pas d'aéroport. Donc, à un moment, on l'a vu la piste qu'au tout dernier moment. Mais parce qu'en fait, ils réchauffent la piste avec des moteurs à réaction, des moteurs d'avion, en fait, qui font défiler sur des camions sur la piste pour la réchauffer le temps d'atterrissage. Et tous les autres avions, ils étaient pleins de neige, en fait. Ouais. On avait l'impression, mais ça faisait vraiment. Je crois que c'est l'image que je reprends dans l'aide. Mais après, l'impression de survoler l'armée de Von Paulus pendant la prise de Stalingrad, en fait, quoi. Vraiment, c'était juste un petit fortin recroquevillé au milieu de la tempête, quoi. Ouais. Et c'était bienvenue, quoi.
Ouais, bienvenue. Et alors, bienvenue, faut le dire vite, parce que à peine arrivé, vous passez, justement, parce que très peu d'étrangers, vous le disiez, viennent dans cette ville, sont autorisés à venir. Vous passez par le poste de police et clairement, vous n'êtes pas les bienvenus. L'accueil, c'est même pas qu'il est pas chaleureux, c'est qu'il est hostile, l'accueil qu'on vous réserve.
Il est russe, hein, donc pas bonjour, pas au revoir, pas merci. Enfin, c'est qu'est-ce que tu fous là, en fait. Heureusement, on avait notre guide qui était un interprète qui était avec nous, parce que évidemment, je parle pas un mot de russe. Mais surtout, alors non seulement, moi j'étais bronzé parce que je revenais de Colombie, donc pour eux, c'était juste de la science-fiction. C'est comme si j'étais un noir, en fait. Et l'autre avec son bandeau.
Votre ami, la bête.
Avec la bête, oui, avec son bandeau de borgne, on était vraiment deux hurluberlus. Et en plus, sur nos papiers, ils voyaient bien qu'on travaillait pas pour Norilsk Nickel, qui est le gros employeur de la ville. Mm-hmm. Ils se demandaient vraiment ce qu'on fichait ici. Et malheureusement, pour eux, nos papiers étaient les bons. Mm-hmm. Donc ils ont été obligés de nous laisser passer, mais c'était vraiment dégagé, quoi.
Ouais. Alors cette ville de Norilsk, une fois que vous y arrivez, à quoi ça ressemble?
Ça c'est un peu cauchemardesque, parce que non seulement c'est en pleine tempête de neige, donc c'est, il fait froid, etc. Mais surtout, dès que tu sors du taxi, l'odeur elle est oppressante, quoi. Hein, ouais. C'est très très sucré, en fait. C'est vraiment une pollution. Alors heureusement, les odeurs on les oublie au bout de 5 minutes. Hein, ça nous a gêné. Enfin, j'en ai surpris 5 minutes. Mais surtout, c'est la fameuse avenue Lénine, en fait, qui est la plus belle avenue de la ville. Alors il y a un site un peu Saint-Pétersbourg, donc qui est assez bien, parce qu'en fait quand les oligarques et Poutine viennent, il faut qu'ils aient quand même l'impression que c'est une belle ville russe, etc. Mais juste après, enfin quand on sort de cette juste simplement de cette avenue, après c'est la pire des banlieues qu'on puisse imaginer.
Vous dites il y a pas vraiment de route, c'est des pâtés de maisons, enfin des blocs de béton et puis les voitures qui circulent autour, faut imaginer les...
C'est curieux, ouais, en fait, il y a quelques grands axes, en fait. Et pour le reste, parce que comme c'est que des barres d'immeubles, en fait des fois au milieu d'une barre d'immeuble, tu as un bar, tu as un restaurant, tu te demandes un peu et tu passes comme ça tu te faufiles un peu dans une sorte de labyrinthe, mais ça a son charme.
Ouais. Alors, oui, ça a son charme, un charme que vous n'avez pas tout de suite perçu. Hein. Au départ, vraiment, vous vous demandez, mais est-ce que vraiment j'ai bien fait d'accepter de venir? Et finalement, c'est en rencontrant des gens. Alors, vous allez rencontrer un groupe de photographes qui vont beaucoup vous plaire et savoir vous montrer leur ville et les beautés de sa laideur, en quelque sorte.
Complètement. Mais de toute façon, c'est toujours le même déclic. Hein. C'est pour ça que moi, les îles tropicales, c'est bien une semaine de vacances, quoi. Mais après, on s'ennuie un peu. Enfin, moi, je m'ennuie un petit peu, en fait. Ce que je préfère, c'est les gens. Et cette ville, elle est à la fois très laide et oppressante, mais. Le premier soir, qu'on est sorti, on était dans un restaurant, etc., il n'y avait personne. Personne. Il n'y avait que nous, en fait. Donc, il y avait les serveurs, les serveuses et tout, mais il n'y avait que nous. Après, un bar que nous. Un autre bar que nous, on se dit, mais si on passe 10 jours dans cette ville sans rencontrer personne, ça va être terrible. Ouais. Et heureusement, il y a notre interprète, là, elle connaissait donc un jeune photographe, enfin un club photo, en fait. Et on les a rencontrés tout de suite, et le contact est passé très très bien. Ils ont dit, est-ce que vous êtes des espions? Et ils ont dit, est-ce que vous êtes des alcooliques qui frappez vos femmes?
Ouais. Donc, vous aviez, vous en plaisantez d'ailleurs dans votre âge, mais vous aviez ces a priori sur la culture russe et sur les Russes.
Des clichés aussi, hein, parce que donc c'est pour ça que eux, c'est pour ça que tout de suite ils ont blagué. Ils ont dit, bon, est-ce que vous êtes des espions? Ouais. Ils savent très bien ce qu'on leur raconte, enfin les clichés qu'on a les uns sur les autres. Mmh. Donc du coup, on les a tout de suite mis de côté, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que, bon, moi je connaissais la littérature russe, et puis ayant baigné avec les récits de Kessel, lui qui avait son âme russe, je me souviens très bien de ce qu'il disait, que dès qu'il entendait des violons russes, il se mettait à commander du champagne, de la vodka, et là c'était à feu et à sang jusqu'à la fin de la nuit, parce qu'il se mettait à pleurer et à redevenir russe. Et donc, étant un peu celte, parce que moi, je suis breton, ces excès me parlaient, et je les ai retrouvés sur place. Et c'est vraiment en allant dans le bar où tous les jeunes mineurs se retrouvent, que là, j'ai retrouvé mes bars de Rennes.
Ouais, c'est ça, hein. Vous retrouvez un peu de l'ambiance de vos bars bretons là-bas. Alors, lors de votre voyage à Norilsk, vous aviez emporté dans vos bagages des livres d'un autre écrivain amoureux de la Sibérie, Sylvain Tesson. Le voici en 2014 évoquant son intérêt pour la Sibérie et ses habitants.
J'ai un attrait pour la Sibérie parce que j'aime les Sibériens. Il faut les aimer parce que ils ont très mauvaise presse, je le déplore en ce moment, en Europe de l'Ouest. On tient un peu les Russes pour des espèces de brutes assez ivrognes qui pensent qu'à taper sur les Tchétchènes. Et moi, j'ai découvert au cours de mes voyages en Sibérie qu'il y avait vraiment autre chose. Et notamment, une dimension assez poétique dans le cœur de certains d'entre eux. Il y a des traits de caractère qui doivent probablement être conditionnés par précisément cette géographie de l'immensité. Et cette géographie de l'immensité, à mon avis, a convaincu certains Russes, et notamment les Sibériens, que ça ne servait à rien de trop s'agiter dans la toile de l'existence, de trop essayer d'être maître de son destin. Et ça a conduit, à mon avis, à une forme de fatalisme, que moi j'aime beaucoup, parce que je trouve très beau. On peut trouver que c'est de la démission affreuse, et voire du nihilisme, mais moi j'aime bien l'abandon à son sort. Il y a même un mot russe un peu argotique qui s'appelle le pofigisme, ce serait un équivalent du je m'en foutisme, et qui fait que parfois on est dans des situations avec des Sibériens où finalement la vie est assez agréable parce qu'elle coule comme ça sans qu'on essaye absolument de la guider, de l'orienter avec les armes de sa volonté, de son ambition.
Ce que décrit Sylvain Tesson, est-ce que ça correspond, Karyl Ferré, à ce que vous avez ressenti en discutant, en rencontrant ces Russes de Sibérie à Norilsk?
Pas tellement, parce que je pense que Sylvain Tesson doit plutôt parler des hommes des bois, ou quelque chose comme ça. Bon, même s'il doit connaître certainement beaucoup plus de gens que moi là-bas, mais là c'est vraiment une ville particulière, Norilsk. C'est vraiment une ville minière avec des gens qui vivent en autarcie. Ils savent très bien qu'ils vont rencontrer personne d'autre que les 200 000 personnes qui vivent là-bas. Il y a aucune autre ville autour. Enfin, il y a un port à Doudinka, mais c'est à peu près tout. Donc ils savent ils vont vivre entre eux. Et moi, ce qui m'a touché là-bas, c'est plutôt c'est la tendresse qu'ils ont pour leurs femmes, les hommes pour leurs femmes, l'humour. Tout de suite, c'est vraiment ce qui nous a, mais tout de suite unis, vraiment. Ils savaient qu'on était là peu de temps, Et alors là, il avait pas une seconde à perdre.
Ouais.
Vraiment. Et c'était vraiment très russe. C'est-à-dire qu'on offre les balles, nos poitrines aux balles, hein, comme il faisait à l'époque du nazisme. Ouais. Et la notion de sacrifice, elle est omniprésente. Malheureusement, de surveillance panoptique poutinienne, hein, parce qu'ils se sont surveillés absolument partout. Mais quand il y a un oasis, paradoxal, hein, un oasis, mais l'oasis, c'est notre présence, en l'occurrence. Ouais. Tout de suite, ils en ont profité.
C'est vrai qu'on a l'impression que vous avez été, finalement, vous avez mis une certaine ambiance dans ce bar de Norilsk, dans lequel vous aviez un peu fait votre QG du lieu avec la bête. Alors vous avez fait des soirées endiablées, vous avez pas mal picolé, hein, dans ce bar. Et on a l'impression que tout le monde se tombe dans les bras, ils savent que vous êtes écrivain, tout le monde se retrouve autour de votre petit carnet pour vous apprendre le plus d'insultes en russe possible. Il y a une proximité, très, très fraternelle, très complice, qui s'installe assez vite entre vous.
Et totalement excessive. Alors, oui. Pour le coup, ça tombe bien parce que j'étais avec la bête, donc on est deux personnages quand même. J'ai écrit un petit éloge de l'excès aussi, donc c'est pour ça qu'elle m'avait prise au mot aussi, les filles de chez Paulsen. Mais ça, en fait, c'est ça qui était magique. Tout ce qu'ils m'ont donné, en fait, c'était une chance incroyable, et je m'en suis servi pour mes personnages, évidemment, de l'aide. C'est qu'ils proviennent tous de ces personnalités assez incroyables, parce que du coup, tout le monde se... Généralement, on se méfie un peu des journalistes, parce qu'on va dire, qu'est-ce qu'il va raconter sur moi, blabla, mais jamais les écrivains. Ils ont complètement tort, hein. Les gens, en fait, vous serez encore plus méfiés d'un écrivain, parce que vous allez être repeint assez vite fait. Mais ils m'ont tous raconté leur histoire. Et comme c'est une ville exceptionnelle, avec des destins exceptionnels, je n'ai que des histoires exceptionnelles qu'ils m'ont racontées. Ouais. Et du coup, ces histoires, même si j'ai changé les personnages, puisque, pour les raisons du livre, du roman, j'ai raconté leur histoire, en fait, quoi.
Vous êtes tombé sous le charme, hein, de ces Russes dont vous aviez finalement, tout le monde vous disait avant de partir, enfin des amis, méfie-toi, ils n'aiment pas les Occidentaux, tu seras maltraité, ça collera pas. Finalement, il y a beaucoup d'a priori qui sont tombés.
Ah, mais on pleurait en se quittant. Ouais. Aussi parce qu'on savait qu'on n'allait jamais se revoir.
Ouais. Vous avez su briser la glace avec les habitants de la ville la plus froide du monde.
Juste un mot, vodka.
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 Vodka, c'est un mot qui vient de voda, qui veut dire l'eau, qui est gentil. Ça veut dire la petite eau, comme quelque chose de très agréable.
Здоровья!
Везде!
Везде!
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Sur France Inter.
Штын парин дан куду краса челиже, пускун кара урубларны куда лаза челиаулы. Карахай штын парин дан куду краса челиже, карамына урубларны кадак каза челиаулы, челиаулы.
C'était Yatka, un groupe de rock sibérien qui chantait, je pense ne pas bien prononcer, Kulets Yatsin Barindan, qui voudrait dire au pied de la montagne.
Nous sommes en train de descendre à une profondeur de 800 mètres dans la mine de Skalistaya. L'ascenseur va à 29 km/h. Dans cette cage, on fait rentrer jusqu'à 90 travailleurs.
Nous pénétrons dans l'une des 6 mines de l'usine. Plusieurs centaines de kilomètres de galeries pour enfin découvrir la plus grande richesse de Sibérie, le minerai de nickel brut.
Voilà notre trésor. C'est grâce à ce minerai que nous sommes devenus le leader mondial de la métallurgie.
Extrait du documentaire « Sibérie, la vie à la dure » réalisé par Delphine Signé. C'était la première fois pour ce documentaire que des journalistes français pénétraient dans ces mines de la société Norilsk Nickel. Vous, Caril Ferret, vous n'avez pas pu y aller dans ces mines, mais vous avez rencontré des mineurs qui y travaillent. Vous dites c'est du Zola dans le nord sibérien, ce que les histoires qu'on vous a racontées.
Bah oui, complètement, parce que bon, évidemment, c'est impossible d'y aller. Hein. Enfin, j'ai demandé, mais c'était.
Ah, vous avez quand même essayé.
J'ai essayé, ouais, mais ils m'ont dit, mais non, mais n'importe quoi. Enfin, c'est secret défense, hein, vraiment quoi.
C'est des centaines de kilomètres de galeries souterraines,
ouais,
incroyable.
C'est complètement fou, en fait, quoi.
C'est la plus grande mine de nickel du monde, hein, qui se trouve.
Ouais, c'est ça. Mais elle est exploitée depuis 1920, en fait. Enfin, par les koulaks, enfin par les goulags, enfin oui, ouais. Par les zecs, en fait.
C'est ça. C'est-à-dire que on n'a pas pris le temps de le raconter, mais cette ville. Pourquoi on a installé une ville dans un endroit aussi terrible, c'était justement pour ses ressources minières, et au départ ça n'était que des prisonniers politiques, des prisonniers de droit commun. Il y en a eu dans les grandes années jusqu'à 500 000 qui ont creusé la terre pour extraire tous ces minerais.
Bah, c'est eux qui ont combattu la ville, hein. Enfin non seulement la mine mais aussi la ville. Et bon, en majorité des innocents, hein, évidemment, puisque c'était des purges staliniennes, qui étaient aussi une façon de dériver de l'esclavage, en fait. Il y avait les serfs sous les tsars, et en fait, Staline, quelque part, il a réinstauré le système des serfs en grâce aux commissaires politiques qu'on fait des rafles, en fait. Hein, c'est une façon de développer la Russie pour à moindre frais. Et ce qui est assez, donc jusqu'en 56, en fait, jusqu'à la mort, enfin, il y a la mort de Staline en 53, mais il a fallu 3 ans pour que ça se libère, en tout cas, quoi. Mais ce qui est assez marrant, c'est que comme ils sont tellement, ils sont tellement isolés, les gens de là-bas, enfin, ils étaient déjà tellement isolés à l'époque, qu'il n'y avait aucun moyen de revenir sur le continent. C'est-à-dire qu'ils sont souvent, ils sont restés. Mm-hmm. Et très peu de gens pouvaient revenir, parce qu'ils n'avaient simplement pas les moyens. Mm-hmm. Donc ils se sont retrouvés quasiment du jour au lendemain à devoir côtoyer leurs bourreaux. Ouais. À l'épicerie du coin, puis à l'école, s'ils avaient des enfants.
Et depuis, les gens qui vivent à Norilsk, ce sont les descendants de ces premières générations. Finalement, on naît et on meurt à Norilsk, sauf si on a un peu d'argent pour s'échapper. Mais la plupart des gens ont une existence assez courte, parce qu'effectivement, dans ces conditions, ils ne vivent pas vieux. Et ils ne sortent jamais de leur ville.
Bah non, ils ont pas l'occasion. À la fois, ils vont skier. Alors, on est allé une fois avec eux skier. Et ouais. Bon, c'est une colline, quoi, en fait, avec une remontée mécanique. Ouais. C'est la seule qu'ils ont, donc c'est comme ça, quoi. Mmh. Après, dans les années 70, il y avait quand même les Komsomol qui sont venus renflouer un peu les caisses de la ville. Donc, ça a été la première vraie immigration. C'était les volontaires russes, hein, donc, qui voulaient venir travailler. Mmh. Et ça s'est un peu ouvert à partir des années 90, la chute du mur. Et là, il y a eu quelques gens des républiques du Caucase qui sont venus faire plutôt les taxis et les sales boulots, en fait.
On le disait, les gens que vous avez rencontrés là-bas vous bouleversent par cette histoire terrible qu'ils ont vécue ou que leurs ancêtres ont vécu. Vous avez cette comparaison, alors je ne sais pas ce qu'en penseront les habitants de Roubaix, mais vous écrivez « Norilsk me rappelait Roubaix, une ville à qui on avait cassé la gueule et qui couvait des trésors d'humanité ». J'ai trouvé cette phrase jolie, j'espère qu'elle plaira aux habitants de Roubaix.
C'est Roubaix. J'adore. Ouais.
Alors, ça vous a tellement plu, finalement, de rencontrer ces gens, qu'après avoir tenu votre engagement auprès des éditions Paulsen, qui était « On vous envoie là-bas, vous faites votre récit de voyage », vous l'avez fait, ça s'intitule « Norilsk », c'est paru aux éditions Paulsen, mais ensuite vous vous êtes rendu compte que ces gens que vous avez rencontrés là-bas, ils vous manquaient. Alors du coup, c'est pour ça que vous avez entrepris d'écrire cette fois-ci un roman policier, comme vous savez le faire, comme vous le faites depuis plus de 20 ans maintenant, avec pour décor cette ville Norilsk.
Bah oui, parce qu'en fait, comme je suis resté en contact avec les, pas mal de gens là-bas, parce qu'il y en avait quand même surtout un qui parlait très bien anglais, les autres on se débrouillait, et lui il est devenu un peu mon espion, mon réceptacle en tout cas, et tous les jours, et aujourd'hui encore, hein, ça fait 4 ans que je suis parti là-bas, tous les jours je reçois des messages, des textos, des vidéos de ce qui se passe en Russie ou à Norilsk, moi c'est plutôt Norilsk qui m'intéresse. En fait j'ai une telle documentation sur les... Et je dis, non seulement il me manque, en plus, j'ai toujours en contact avec eux. Et à partir du moment où j'ai décidé d'écrire le roman, je l'ai missionné, en fait, pour me donner des informations que j'avais pas sur place parce que je ne comptais pas écrire un roman à l'époque. Mm-hmm. Donc, du coup, il m'a fait même carrément des interviews de gens, en fait, de mineurs et autres, avec des questions particulières que je lui demandais. Donc, il a fait un peu le travail à ma place, sur place. Mais surtout parce qu'il me manquait une chose qui n'arrive jamais, généralement, quand je finis un roman, en l'occurrence, qui se passe à l'étranger. Donc, celui d'avant, c'était pas ce qui se passait en Colombie. Généralement, je fais un break de un mois ou deux pour me ressourcer, pour voyager, pour mon prochain voyage, ou faire un roman jeunesse, ou un scénario de film, ou de BD, peu importe. Et là, j'ai commencé le lendemain.
Ouais.
En fait, ça, moi-même, j'avais tellement envie de...
Vous aviez envie d'y rester, finalement, ouais, dans cette ville.
Ou d'y retourner dans ma tête, ouais. En fait, mais... Et de fait, l'écriture s'est passée... généralement, c'est toujours hyper laborieux. Et là, c'était génial, parce que ça faisait des mois et des mois qu'en fait, il me manquait.
Alors, ce roman s'intitule « L'aide », pour en donner les grandes lignes. Donc, évidemment, ça se passe à Norilsk. Vous avez évidemment profité de cette usine, de cette mine de Norilsk Nickel. Vous aviez appris que, alors que c'est la plus grande extraction de... Je crois que c'est... j'ai plus les chiffres, mais c'est 2% du PIB de la Russie. Et il y a 10% de nickel qui disparaît, on ne sait pas trop comment, dans ce qui est extrait. Donc, vous êtes dit, bon, là, il y a évidemment des tas d'histoires à raconter avec ça. Pour planter le décor, il y a un cadavre de Nénette, ça, un éleveur de rennes qu'on retrouve dans les décombres d'un immeuble qui s'est effondré. Et puis voilà, l'enquête démarre sur ce décor incroyable, cet enfer de Norilsk pour un roman policier, avec un enquêteur qui lui vient d'Irkoutsk, une ville un peu plus lointaine, mais qui a été exilé là parce qu'il fouillait trop. On n'en dit pas plus. Mais dans tous ces personnages, il y a de ceux que vous avez rencontré réellement à Norilsk?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça a été une problématique, c'est que donc dans mon roman, il y a deux mineurs qui sont homosexuels, parce qu'évidemment, ils sont homophobes, ça suffit. Et je me dis, tiens...
Les Russes sont homophobes, pas les deux personnages
homosexuels. Non, eux, ils sont homosexuels, en fait. Quoi. Et je me dis, tiens, c'est, parce que dans l'intrigue de l'aide, certes, il y a toute une histoire policière qui est un prétexte, en fait, pour découvrir la ville et ses habitants. Mais en mettant l'homosexualité au cœur de ça, je sais que ça allait créer aussi un problème par rapport à mes potes russes qui vont se reconnaître à travers des traits des personnages, en fait.
Ah, ouais.
Et de fait, ça n'a pas loupé, hein, quand le bouquin est sorti. C'était, parce que, ce qui est affreux quand même, hein, c'est que, même s'ils sont hyper sympas, etc., quoi, le fait que l'un d'eux, dans un roman, puisse être reconnu comme homosexuel, c'est limite, je pourrais lui bousiller sa vie.
Ouais.
En fait, parce que si, tu peux être ostracisé pour ça, et si t'es ostracisé, comme t'as personne d'autre à voir, eh ben, ouais. T'es juste bon à rester tout seul dans ton 12 mètres carrés, parce que voir dans quelles conditions.
Mais alors pourquoi vous l'avez fait, du coup, ils vous ont reproché de l'avoir fait, vos amis?
Bah, ça les a, mais bon, moi je suis un peu subversif, hein, moi, ouais. je suis pas là pour faire plaisir à Machon Bidule, ouais. Je voulais te parler de l'homosexualité, parce que c'est une problématique pour eux, c'est pas une problématique pour nous, en fait. Et évidemment, il me dit, ouais, jamais vu d'homo de ma vie. Mais je dis, mais bien sûr que si. Ouais. Il y en a à peu près 10%, on va dire, enfin bon, pour faire une moyenne comme ça. Et ceux qui te le disent pas, pauvre débile.
Donc vous aviez envie de faire un peu, de les bousculer, de faire un peu évoluer leur mentalité là-dessus.
Complètement.
Moi, parce que cet aspect-là de leur personnalité, enfin de leur conviction, vous déplaisait. Y a-t-il une part de reportage dans vos romans? Avant de répondre, je vous propose d'écouter la réponse d'un écrivain que vous appréciez, que vous avez déjà cité dans cette émission, Joseph Kessel. Lui aussi s'est beaucoup inspiré de ses voyages pour écrire et il répondait en 1959 sur la RTF à cette question sur la part de reportage dans ses romans.
Moi, à mon avis, dans tout livre, d'ailleurs, même dans les livres les plus introspectifs, on peut dire qu'il y a une part de reportage. Proust a fait un reportage sur sa sensibilité, sur ses rêves, sur ses souvenirs d'ailleurs aussi. Qu'est-ce qu'au fond est un roman? Ça dépend, enfin, comment on entend le roman, mais Pour moi, c'est décrire un milieu et faire vivre des gens. Alors, le milieu et les gens, on ne peut décrire que ceux qu'on connaît. Le tout, c'est de créer une situation, alors, fictive, imaginaire, qui dramatise et met en relief les rapports des gens entre eux pour sortir d'eux ce qu'il y a de plus caractéristique, de plus puissant, de plus émouvant, et tout en gardant leur vérité dans le milieu où ils évoluent.
Vous êtes d'accord avec Joseph Kessel, Caryl Ferret, il y a une part de reportage dans tous les romans ?
Ah, complètement. Bon, déjà, Kessel, moi, c'est un de mes héros, alors bon... mais c'est vrai, c'est surtout, enfin, ce qui m'intéresse, moi, c'est que tous les personnages aient vraiment une véracité et qu'on y croit vraiment, quoi. Ouais. Et quand, d'ailleurs, pour moi, l'hommage en fait que m'ont fait mes potes russes, c'est que, parce qu'ils l'ont traduit en fait, ouais. L'aide, et ils m'ont dit que ça aurait pu être non pas un russe, mais un sibérien qui aurait pu l'écrire.
Ah oui.
Donc là, je dis bon, ça va. Je pense que j'ai bien retranscrit leur ce qu'ils m'ont donné en tout cas. Ouais.
Bon, prochain voyage, c'est pour très bientôt. Et alors là, vous retournez dans votre hémisphère favori. Vous partez dans quelques jours pour la Namibie.
Ouais, dans 5 jours, si tout va bien.
Cette fois-ci, le roman est déjà écrit dans les grandes lignes et vous allez peaufiner justement, grâce à ce voyage, certaines scènes pour les rendre plus réelles, les imprégner du réel que vous allez rencontrer.
Oh bah c'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est que le roman était, enfin il est préécrit, ouais. Mais il est complètement nul. Enfin mais ça vaut rien. Je sais bien. C'est... Ouais. J'ai fait une demande du CNL, ils m'ont dit oh non c'est abouti. J'ai dit, mais vous appelez ça abouti vous ouais. C'est tombé. Non c'est vraiment là c'est... Ouais. Tout le monde. Mon prochain livre c'est sur les braconniers. Enfin donc c'est anti braconniers. J'ai découvert les animaux. J'ai trouvé des pisteurs san aussi, les koi san. Enfin les gens qui vivent sur place. Et l'émotion qu'on voit un animal sauvage, elle est impossible à décrire. Enfin si tu l'as pas vécu.
Vous viendrez nous raconter ?
Avec plaisir.
Merci, Caryl Ferret. Je rappelle le titre de votre dernier roman, L'Aide, paru aux éditions Les Arènes. Et puis, il y a aussi votre récit de voyage à Norilsk, aux éditions Paulsen, qui s'intitule tout simplement Norilsk. Vous restez avec nous dans un instant. Nous allons nous réchauffer sur les atolls de Polynésie française avec le vidéaste Léo Grasset de la chaîne YouTube Dirty Biology. Il va nous emmener étudier les oiseaux sur des îlots déserts du Pacifique.
Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão, quando você vem. Vejo a lua e as estrelas e vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas, sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Não tem tempo nem estação. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão, mas você não vê.
C'était Dom La Nena, Bejo Passar sur France Inter. La programmation musicale est signée Thierry Dupin.
France Inter. Le temps d'un bivouac.
Et nous a rejoint le vidéaste Léo Grasset de la chaîne YouTube Dirty Biology. Bonjour Léo.
Bonjour, ça va bien ?
Ça va très bien. Alors vous avez mis en ligne sur votre chaîne Dirty Biology un superbe reportage que vous avez réalisé dans le Pacifique sur des îlots déserts de Polynésie française. Vous avez suivi les scientifiques de l'expédition baptisée Kiwi-Kwaka. Quel était le but de cette expédition exactement, Léo ?
Alors à la base, le but de l'expédition, c'était poser des balises GPS sur un maximum d'oiseaux possibles, des oiseaux migrateurs, avec, en idée, mais un peu exploratoire, de faire en sorte que ces oiseaux créent un système d'alerte contre les cataclysmes, donc contre les tsunamis ou les séismes ou les cyclones.
Donc il s'agissait de capturer des oiseaux migrateurs appartenant à certaines espèces bien précises pour les équiper de balises ultra miniaturisées et puis pour suivre un peu leur comportement, voir comment ils réagissaient. Qu'est-ce qui laissait penser ces chercheurs que ces oiseaux allaient réagir à ces catastrophes naturelles type tsunami ou séisme ?
Alors il n'y a pas vraiment de preuves formelles qui permettent d'être sûrs qu'ils vont réagir à ce genre de catastrophe. Mais on va dire qu'il y a une sorte de faisceau d'indices. En gros, on sait que les oiseaux sont sensibles aux infrasons et on sait que la plupart de ces catastrophes émettent des infrasons. Donc typiquement, un cyclone, on peut l'entendre si on écoute les infrasons. Pareil pour les séismes. Et on sait aussi que les oiseaux réagissent souvent à l'avance de ces catastrophes. Donc, l'hypothèse toute bête, c'était de se dire, des oiseaux qui doivent traverser le Pacifique et donc éviter beaucoup de ces problèmes, surtout les cyclones, il y a de fortes chances que l'évolution les ait dotés des capacités de ressentir tout ça. Mmh. Donc voilà, là c'est un peu un test de cette théorie sur le terrain, grandeur nature, ouais. Avec pas mal de balises GPS, il y en a 60 qui ont été posées au final.
Oui, c'est ça. Mais
sur pas mal d'espèces migratoires.
Ça n'était que des hypothèses, il va maintenant falloir les suivre, ces oiseaux, et puis attendre que des catastrophes surviennent pour voir comment ils ont réagi à ces catastrophes. C'était tout l'intérêt de cette expédition en Polynésie que vous avez suivie. Vous êtes allé dans l'archipel des Tuamotu. Décrivez-nous les lieux, parce que les images de votre reportage sont absolument sublimes.
Merci, mais j'ai pas eu beaucoup de mérite, hein, très honnêtement. C'est un endroit magnifique. Enfin, juste à allumer l'appareil photo et c'est bon, ça marche. En gros, faut imaginer de très grands atolls. Donc, c'est des très très fines bandes de terre qui encerclent un lagon. Le lagon, en général, l'idée d'un turquoise sublime. Ces bandes de terre sont très basses, donc elles disparaissent sous la montée des eaux, sous les cyclones. Et il y a des plages paradisiaques, des grandes barrières de corail, des requins dans le lagon. Mmh. Et au milieu de tout ça, des oiseaux qui profitent de ces îles comme aire de repos pendant leur migration depuis l'Alaska. Mmh.
Et sur chaque îlot, en fait, vous arriviez pour 2 jours. Et là, vous vous retrouviez ensuite seul avec quelques scientifiques à attendre les oiseaux.
Ouais, non, ça c'était vraiment le côté vraiment incroyable. Donc, en fait, on était toute la logistique était gérée par la Marine nationale et leur très gros bateau qui est le Bougainville. Il fait 65 mètres de long, donc il peut pas rentrer dans la plupart des atolls qui sont en fait très peu profonds. Les passes, elles sont toutes petites. Donc, il fallait qu'on nous décharge dans une baleinière et qu'on...
Ah, on a perdu la liaison avec notre ami Léo Grasset. Pourtant, il n'était pas jusque en Polynésie. Je ne sais pas exactement où il est. On entendait un carillon derrière lui. Ça avait l'air d'être dans un village de France métropolitaine. Caryl Ferret est toujours avec nous. Vous êtes allé, vous, en Polynésie ?
Je suis resté une journée, en fait.
Ah oui, il n'y a pas de quoi écrire un roman, là, avec...
C'était mon tour du monde et je suis arrivé là-bas et... J'étais fauché, hein. J'étais parti avec l'équivalent de 300 euros pour faire le tour du monde et j'ai vu le prix du paquet club et j'ai dit que au bout de 15 jours, j'aurais fait banqueroute. Donc je suis reparti le soir même.
Résolument, vous, ce qui vous inspire lors de vos voyages, ce ne sont pas les paysages. Là, quand je vous parle d'atolls polynésiens perdus dans le Pacifique, les descriptions que vient de nous faire Léo Grasset, c'est pas quelque chose qui est de nature à vous donner envie de prendre la route.
Prendre la route, non. D'y aller, si, comme ça, aller au chaud, etc. Ça, ouais. Avec une femme, par exemple.
D'accord. Plus des vacances de plaisir. Ouais. Léo Grasset, on vous a retrouvé ?
Oui, c'est tout bon.
Bon, c'est tout bon. En plus, j'entends les cloches. Mais dans la première partie de votre voyage, vous avez eu du mal à les trouver, hein, ces oiseaux, je crois. Alors, on n'a plus qu'une minute pour conclure, mais expliquez-nous les difficultés auxquelles vous avez été confrontés.
Oui, bah, en gros, les Tuamotu, elles sont victimes de gros problèmes, d'invasion biologique particulièrement, donc des rats, puis des chats qui sont amenés par les humains quand ils viennent cultiver la coco. Et donc ces rats et ces chats se nourrissent des oiseaux migrateurs. Donc en fait, on voit vraiment en ce moment une grosse perte de biodiversité dans ces sortes de petits paradis perdus. Donc ça a été effectivement un énorme problème pour l'expédition, qu'on a réussi à rattraper à la fin de l'expédition, mais c'était pas gagné, quoi. Mmh.
Et quand même, vous avez, alors on peut le dire dans les 15 secondes qui restent, vous avez quand même bénéficié, c'était en février dernier, alors qu'on était tous sous couvre-feu et autres confinements en répétition, vous étiez dans ces atolls polynésiens avec des scientifiques, c'était le bon endroit à ce moment-là, hein.
Ah oui, non, mais c'était absolument parfait, d'autant que j'en ai profité pour rester un peu plus longtemps, donc je suis quasiment resté 3 mois là-bas.
Bon, très bien. Alors la première partie de votre reportage est déjà en ligne, hein, mais d'ici la fin de la semaine, vous allez mettre en ligne le deuxième volet de ce reportage en Polynésie. Sans tout dévoiler, la fin de l'expédition a été plus productive, hein, vous avez trouvé plus d'oiseaux. Merci à vous, Léo Grasset. On va mettre, merci bien beaucoup. Sûr, un lien sur votre chaîne Dirty Biology. Et les images, je le rappelle, sont superbes, on apprend plein de choses. Le temps d'un bivouac replie sa tente, vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Merci pour les messages que vous nous laissez sur la page Facebook du temps d'un bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.